Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Ah, vous les jeunes, vous allez changer le monde.
On l'a entendu souvent, cette phrase-là. C'est bien beau de nous dire qu'on va changer le monde, mais comment est-ce qu'on va faire ça? L'environnement, c'est vaste, c'est grand. Ça veut aussi dire que les domaines dans lesquels on peut s'impliquer sont nombreux. Si vous vous sentez perdu à travers toutes les manières de donner du vôtre, vous êtes à la bonne place. On est là pour vous guider, pour vous dire comment vous informer, comment vous impliquer et comment travailler dans des domaines captivants qui aident à protéger l'environnement. Écoutez l'émission « Les jeunes vont changer le monde » pour savoir comment passer de la parole aux actes.
Hey, bonsoir à tous. Bienvenue à l'émission « Les jeunes vont changer le monde ». Je m'appelle Daphné Carmel, puis je suis accompagnée de mes deux super co-animateurs, donc Daphné Groudreau, qu'on appelle Daph. Bonsoir. Et Jacob Bisson.
Salut, ça va?
Oui, ça va, vous autres?
Salut.
Oui, fait que vous allez bien, même avec la pluie, là.
Oui, oui, on reste en dedans.
Oui, c'est un peu déprimant, là, mais...
C'est particulier, là, le 17 février.
Oui, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord.
En tout cas...
On va essayer de rendre ça positif ce soir.
Oui.
Donc, on est déjà à notre troisième épisode de l'émission « Les jeunes vont changer le monde ». Je vous rappelle encore rapidement le concept. On a choisi différentes thématiques qui sont reliées à l'environnement puis pour lesquelles il est possible de faire changer les choses. Puis le but de l'émission, c'est de vous outiller, vous, les auditeurs, pour que vous puissiez changer les choses là, dans les différents domaines de l'environnement ou dans des domaines qui sont connexes, mais qui permettent de faire changer les choses. Par exemple, la semaine passée, on a parlé d'or. Donc, l'or, c'est connexe à l'environnement parce que ça permet de sensibiliser les gens. Bref, à chaque semaine, on vous propose trois segments, donc s'informer, s'impliquer, puis se trouver un métier. Parce que, ben, selon nous, c'est en faisant des actions, une de ces actions-là, ou même les trois, qu'on va réussir à changer le monde. Donc, bref, encore un bel épisode qui nous attend ce soir. Puis là, je laisse la parole à Daph, qui a vraiment hâte de nous parler, puis qui va nous expliquer de quoi on parle là, ce soir.
Hey, oui, je suis excitée, là. Ce soir, on va parler de l'eau. Fait que, ouais, je suis excitée, j'aime assez ça. Je vais vous parler un peu comme de l'océan, puis après ça, on va se rapprocher un peu des plans d'eau qu'on a proches de chez nous au Québec. Donc, le fleuve, là. D'emblée, je veux vous dire qu'on va recevoir Alexandra Baer en entrevue plus tard dans l'émission. Puis Alexandra travaille pour l'Observatoire international des droits de la nature et en ce moment, elle travaille sur un gros projet dans la protection du fleuve. Pour vrai, j'ai aucune idée de quoi qu'elle va nous parler, fait que je suis quand même très excitée, là. Donc, pour vous mettre en contexte, j'ai toujours full aimé ça, être sur le bord de l'eau, puis j'ai vraiment un grand intérêt pour les mammifères marins. Là, vous me connaissez, je suis tannante, j'en parle à qui ne veut pas m'entendre en parler. Je les aime vraiment, je les trouve impressionnants. Puis l'océan aussi m'impressionne, à quel point c'est gigantesque. Tu sais, l'eau couvre 70 % de la surface de la planète, puis il y a juste 5 % qui ont été explorés à ce jour-là. Réalisez-vous, là.
C'est rien, là,
5
%.
Wow!
C'est rien pantoute.
Ouais, ouais, ouais.
Ah! Donc, ça, ça veut dire que, justement, il y a tellement de choses qu'on n'a pas encore découvert. Puis, dans une cuillère à thé d'océan, OK? Hey, il y a tellement de zéros, je ne sais même pas c'est combien. Là, quand il y a 9 zéros, c'est 1 milliard. J'ai besoin d'aide.
Oui, oui, c'est 1 milliard.
Je regardais Jacques avec des yeux de panique. C'est pas mon fort. Mais dans une cuillère à thé d'océan, il y a 1 milliard de virus.
C'est énorme.
Dans une cuillère à thé, là.
Je ne vais plus jamais me baigner. C'est fini, ça.
C'est terminé, là. Tu sais, puis dans la même cuillère à thé, il y a entre 100 000 puis 10 millions de bactéries. Fait que, tu sais, l'océan, c'est vraiment rempli de vie. Puis quand je dis, tu sais, je mets l'emphase sur le vraiment rempli de vie, là. Puis on n'est pas au courant de rien, là. Parce qu'on a exploré 5 % sur ouais. 70
Je me doutais pas que c'était aussi incroyable que ça. Parce que, il me semble, dans de l'eau salée, tu sais, oui, il y a des organismes vivants, là, mais dans du sel, c'est pas plus difficile de vivre. Mais non, c'est vrai que depuis la naissance du vivant, là, ça se fait dans les océans. Là.
Oui, parce que ça a parti de là. Puis il y a des bestioles, je dirais, des petites affaires.
Des organismes.
Oui, c'est ça, des organismes, des micro-organismes aussi, qu'eux autres, ils ont la capacité, puis ils se sont développés, puis adaptés justement à des milieux super salés. Donc, pour eux, le sel, c'est idéal, puis c'est pas un problème.
Il y en a-tu même qui se nourrissent de CO2?
Je pense que oui, d'accord. Tu sais, fait que là, mettons, je voulais juste vous mettre en contexte là, de mon intérêt pour l'eau. Ça remonte à super loin. Je sais pas c'est à partir de où, mais j'ai toujours été bien sur le bord de l'eau. Puis là, j'ai découvert à un moment donné Mario Cyr. Qui est un incroyable.
Ça commence.
Mario Cyr.
C'est un incroyable directeur photo, vidéaste, explorateur des fonds marins. Il est considéré comme l'expert mondial de la plongée sous les glaces ou le Spielberg des profondeurs. Puis là, c'est pas moi qui le dis, là. C'est pas moi. C'est le premier humain qui a nagé avec des morses sans cage. Il s'est fait disloquer l'épaule. C'est le fun.
Oh.
C'est excitant.
On comprend pourquoi les autres nagent avec des caches.
Ouais, c'est ça. Ils sont bien protecteurs, là. Fait que la grand-mère a vu Mario aussi, puis elle a dit ça passera pas. Je protège ma famille.
C'est-tu un coup de tête qui lui a disloqué l'épaule? Ouais.
Un gros coup de crâne de morse, puis t'es sous les glaces, puis tu te fais disloquer l'épaule. Arrange-toi.
Ouais, c'est une belle expérience. Avec les autres membres.
Tu voudrais vivre ça, Daphné. C'est une belle expérience. À mettre sur ma to-do list, là.
Non, mais de la façon dont t'en parles, ça a l'air d'une belle expérience, là.
Oh, clairement. C'est sûr. Il a tourné des images aussi pour plusieurs documentaires de National Geographic. J'ai été voir deux fois sa conférence. C'est pour ça que je connais si bien l'histoire de Morse comme si c'était la mienne. Puis j'y retournerai une troisième fois tellement que je trouve ça intéressant puis que je m'en lasserai pas. Tout ça pour dire que j'ai toujours été vraiment très bien au bord de l'eau. Puis Mario Cyr m'amène avec lui sous l'eau par ses images vraiment incroyables. Puis ben, je me demandais en fait si vous aussi vous aviez un genre de sentiment d'appartenance comme ça sur le bord de l'eau ou si c'est vraiment plus dans la forêt que vous trouvez votre compte, vous.
Ben moi, je suis allée en Gaspésie l'été passé pour la première fois de ma vie, puis j'ai tellement trippé, là. Je pense que l'odeur puis le bruit de la mer, là, ça m'a tellement rentré dedans, là. Je veux juste revivre ça, là. J'attends juste le moment où je vais pouvoir repartir en Gaspésie, là. J'ai vraiment trippé, là. C'est fou, la connexion, là, que j'ai pu avoir, là.
Ah, d'accord.
Je sais pas si j'ai une aussi forte connexion, mais c'est effectivement que l'odeur caractéristique du bord de la mer, c'est vraiment quelque chose qui est plaisant. Mais j'ai souvent eu peur de l'eau par des traumatismes peut-être dans l'enfance. Donc, je dirais que avoir les pieds sur terre, c'est un peu plus facile.
Oui, puis là, je t'ai dit qu'il y a 1 milliard de virus par cuillère à thé. Donc,
ça donne pas ça, le goût.
C'est pas ça qui me donne un sentiment de panique quand je suis au large, mais ça mettons que ça aide pas,
ouais. Oui. Bon, ben c'est super, je suis contente. Je voulais juste là, d'emblée comme qu'on mette des définitions parce qu'il y a certains termes qui vont être utilisés au courant de l'émission, puis je veux que tout le monde soit sur le même... On part de la même place, là. Donc, un fleuve, c'est un cours d'eau qui se jette dans la mer ou dans l'océan. Puis un estuaire, c'est l'embouchure d'un fleuve, soit une zone de transition entre l'eau douce et l'eau salée. Donc, il y a de l'eau saumâtre dans une embouchure. Puis, Jacob, il y a aussi des espèces et des organismes qui sont adaptés à de l'eau saumâtre. Donc, on n'a pas besoin d'avoir juste de l'eau sans sel pour qu'il y ait de la vie dedans.
Est-ce qu'il y a des exemples d'animaux qui vivent juste dans les estuaires?
Juste dans les estuaires, je ne...
Il y en a qui peuvent juste mettre bas dans les estuaires, je crois.
Ah oui, tu me parles du beluga! Oui. Oui, le beluga, oui. Oui, il vit dans dans l'embouchure du fjord, justement au Saguenay, là, principalement Baie-Sainte-Marguerite, qui est une grande pouponnière pour les belugas.
Oh!
Donc, c'est ça. Je voulais juste citer là, comme fleuve puis estuaire. C'était quoi la différence entre les deux? Puis là, la gang, je vous ai préparé un quiz. Je suis une grande fan de Trivia Crack. J'adore les quiz.
Let's go!
Un quiz!
Quiz! Est-ce que vous êtes prêts?
Oui!
OK.
Oui.
On commence. Il y a combien d'océans sur la planète? A, 5, B, 6, C, 4.
Jacob.
Ah, comment vous voulez fonctionner?
Vas-y, vas-y.
J'ai été plus vite. 5.
Oui, bravo, Jacob. Yeah.
T'es-tu capable de les nommer?
Ah, océan Indien, océan Atlantique, océan Pacifique. Océan Austral, océan Arctique.
Voilà. Austral et Indien ne sont pas.
Hein?
Non. Je pense que c'est parce qu'ils sont trop petits.
Vas-y, c'est
mais
quoi
comme les 5 qu'il y a, c'est Atlantique, Pacifique, Arctique, puis l'Antarctique. Je n'ai-tu nommé juste 4?
Oui.
Oui.
Ben peut-être qu'Indien est l'autre. C'est l'autre.
Oui, oui, oui. Oh, clairement, clairement l'océan Indien, là. Mais oui, OK. Austral puis Antarctique, c'est peut-être similaire. Là.
Ah, ça se peut, oui. Puis, on peut classer les océans comme les poumons de la planète au même titre que la forêt amazonienne. On s'en reparle tantôt.
Vrai.
Ben, vrai ou faux. Le fleuve prend sa source d'eau des grands lacs.
Vrai. Vrai.
Oui, c'est vrai. Le fleuve part du lac Ontario, puis descend jusqu'à l'océan.
Ouais.
Fait que c'est peu dire que le fleuve, il n'y a pas vraiment de fin. Parce que quand tu regardes sur une carte, ben tu vois qu'il part du lac Ontario, il remonte son chemin, il ramasse toute l'eau sur le bord des berges. Je veux dire, ça touche à toutes les municipalités qui sont sur le bord à partir du lac Ontario jusqu'à Tadoussac, où est-ce que là, dans ce coin-là, ils se jettent dans l'océan. Fait qu'il n'y a pas de fin.
Il n'y a pas de fin, mais même le début, genre, parce que je l'ai vu en cherchant cette information-là, puis je me demandais si le lac, là, à un moment donné, il n'y a pas de l'eau à l'infini. Là. Ça ne peut pas couler dans le fleuve à l'infini. En vrai, je ne comprends pas.
Ben,
c'est le cycle de l'eau, hein, j'avoue.
Le lac prend son eau de son bassin versant, puis le bassin versant prend l'eau de l'atmosphère qui pleut.
Bassin versant. Commençons par c'est quoi un bassin versant?
Vas-y, Jacob.
Okay, je vais y aller parce que j'ai un petit segment là-dessus. Je vais le commencer de suite. Un bassin versant, c'est le territoire où ce que l'eau s'écoule vers un cours d'eau ou un plan d'eau particulier.
Un point précis, là.
Ouais. Donc, par exemple, autour de la rivière Yamaska, ben, il y a tout plein de terrains qui envoient plein de cochonneries dans la rivière.
Ben, elle n'a pas juste des cochonneries.
Non, mais mettons que c'est pas la rivière la plus propre.
Non, hein? Malheureusement, la Yamaska.
J'ai arraché des plantes envahissantes cet été, puis j'avais les bras qui piquaient à la fin de la journée.
OK. L'estuaire maritime du Saint-Laurent comporte, selon vous, combien d'espèces de mammifères terrestres et marins?
J'ai des choix. Oui.
A, 96. B, 83. C, 76. D, 104. J'étais trop excitée, j'ai oublié mes choix de réponse, excusez.
Jacob.
Jacob.
104.
Non. Daf.
Le troisième, là, c'était...
76?
Ouais.
Non plus.
Ah.
On retrouve 83 espèces de mammifères terrestres et marins. OK, puis là, j'ai un grand speech pour vous, là. 400 espèces d'oiseaux, 18 espèces d'amphibiens, genre les grenouilles, là, 15 espèces de reptiles, 100 espèces de poissons, puis plus de 2000 espèces d'invertébrés marins.
C'est quoi un invertébré marin? Un poisson?
Non, c'est les petits mollusques, ceux-là qui n'ont pas de colonne, oui, genre les coquillages, puis les crevettes, puis ces affaires-là. Okay. C'est beaucoup de monde,
c'est
là.
C'est énorme.
Je me serais attendu à plus d'amphibiens puis de reptiles.
C'est vrai.
Ils se sont pas forcés, là.
Ouais.
La biodiversité, là, elle est un peu plus que ça.
Ben oui. Mais je reviens à ma cuillère à thé d'océan. On trouve entre 1000 et 100 000 phytoplanctons. Puis entre 100 et 1000 micro-zooplanctons. Puis là, ça, ces planctons-là, c'est du plancton végétal. C'est l'ensemble des organismes végétaux qui vivent en suspension dans l'eau. Puis le phyto puis le zoo sont super importants. Puis je ne mettrai jamais assez l'emphase là-dessus. Ils sont super importants parce que dans les cours d'eau, ils sont à la base de la chaîne alimentaire de l'ensemble des océans au complet. Puis tantôt, je vous ai dit que les océans étaient une des principales raisons pour lesquelles nous trois, on veut respirer. Ben, c'est grâce au phytoplancton, parce qu'ils fabriquent entre 50 et 85 de l'oxygène qu'on peut respirer.
Donc,
répète le pourcentage.
50 et 85.
C'est énorme.
C'est plus que la moitié de l'oxygène.
Wow!
Jacob!
Mais en fait, juste pour que les auditeurs comprennent bien, là, le phytoplancton, c'est comme le gazon. Ensuite, le zooplancton, c'est un lapin. Puis ben, tout ce qui vient après ça, ben c'est quelque chose qui mange le lapin. C'est bien ça? Fait que si on veut avoir des loups, ben il nous faut les lapins. Fait que c'est pour ça que c'est à la base de la chaîne alimentaire.
Tu fais une analogie, là?
Oui, ouais. C'est ça.
On peut aussi se dire que le phytoplancton, c'est ce que les petites crevettes vont manger, mm-hmm. puis les poissons vont manger les petites crevettes, puis les phoques vont manger les poissons, puis après ça...
C'est ce qui est à la base de la chaîne alimentaire.
Exactement, puis... Mettons, les baleines, ça va manger du phyto puis du zoo à profusion. Fait que, tu sais, s'il y en a moins, ben là, tout va être déréglé puis ce sera plus le fun.
Ah, les baleines sont omnivores?
Oui, Jacob.
Ah.
Parfait. Donc, ma dernière question, ce serait, connaissez-vous la date de la Journée internationale de la diversité écologique? C'est une journée qui est sanctionnée par les Nations unies pour promouvoir la biodiversité.
On est supposé connaître la date?
Ben, ce serait le fun.
Daphné.
Oui.
Aujourd'hui?
Non, pas en tout. C'est le 22 mai en 2022. Donc, maintenant, tu la sais et tu vas pouvoir célébrer cette journée.
22 mai, c'est pas dans le coin du jour de la Terre? Non, c'est en avril, je pense, le jour de la Terre.
Oui, c'est en avril.
OK.
Fait que c'est un autre mois complètement. Fait que tu vas pouvoir focusser ton mois sur aller en Gaspésie, profiter du fleuve.
C'est bon.
Fait que ça fait le tour de mon quiz. J'espère que vous avez appris des choses puis que vous êtes content.
Oui, vraiment.
Contente.
Donc, on va aller à une petite pause pub, puis on revient avec le segment S'informer. De retour à Les Jeunes vont changer le monde avec Daphné, Daph et Jacob.
Salut!
Hello! Donc, on est rendu au segment S'informer. Donc là, on va vous parler un petit peu, ben, je vais vous parler de sources d'informations que vous pouvez aller consulter si vous voulez vous informer sur le fleuve. Donc, j'ai passé presque 2 heures à me promener en ligne. Là, pour vrai, j'ai fait le tour de plein de sources d'informations sur le fleuve. Puis, je peux vous dire que c'est pas ça qui manque, les sources d'informations.
Ça m'a même donné le goût de déménager sur le bord de l'eau. Là, je vous l'ai dit, là, la Gaspésie, ça me fait triper. Fait que de voir toutes ces images-là puis de consulter toutes ces sources-là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et j'ai réalisé à quel point on est privilégié d'avoir une aussi grande richesse puis qu'il faut en prendre soin. Donc, bref, je vous donne quelques pistes d'informations si vous voulez vous informer plus sur le sujet. Bon, là, mes deux premières sources sont vraiment plates, là, mais si jamais vous voulez faire des recherches plus comme avoir des informations précises, là, les deux sites du gouvernement, soit provincial, fédéral, il y a quand même beaucoup d'informations parce que le fleuve, c'est vraiment, ça fait partie de notre identité puis c'est un élément important. Fait qu'ils n'ont comme pas le choix de mettre de l'information là-dessus. Sinon, il existe aussi, je suis tombée sur un site web, dans le fond, qui, en fait, c'est un plan d'action. Ça s'appelle le plan d'action Saint-Laurent 2011-2026 qui a été bâti justement en concertation avec le gouvernement provincial et fédéral. Puis ce plan-là, en fait, ça a permis de, puis ça permet encore là, de réduire la pollution, de conserver, de réhabiliter, d'aménager des habitats pour la faune et la flore, de développer des connaissances, d'outiller les décideurs pour qu'ils prennent des meilleures décisions, d'encourager des pratiques de navigation durable, de sensibiliser puis de mobiliser les communautés. Bref, c'est un plan vraiment complet là, qui permet plusieurs actions. Fait que, comme je dis, c'est d'intérêt autant national que fédéral de protéger le fleuve. Donc, il y a ce plan-là qui existe. Fait que sur le site, on retrouve plein d'informations intéressantes. Fait que je vous invite à aller consulter ça.
Bien, ce plan-là, est-ce qu'il mène à certaines lois sur la réduction de la pollution?
Bonne question. J'ai pas rien vu par rapport à ça.
Parce que la pollution, elle vient pas de nulle part. Elle vient sur nos terres. Qu'est-ce qu'on fait, là? Fait que si on veut la réduire, il faut réduire à la source.
C'est une bonne question.
Oui, bien, directement en lien avec ce plan-là, avec ce plan d'action-là, je ne sais pas, mais chaque municipalité a des lois et des règlements que tout le monde, autant la municipalité que les citoyens et citoyennes doivent respecter, qui sont en lien avec l'eau propre, puis pas rejeter ses eaux usées n'importe où, puis mm-hmm. tout ça. Là, fait que je pense que ça peut être propre à chaque place aussi.
Oui, bien là, ça vient complexe. Là. On n'entrera pas dans les notions non. de droit, là, mais non, comme non. la navigation, il me semble c'est fédéral, puis les fonds, mm-hmm. c'est en tout cas... On n'embarquera pas là-dedans.
Non, c'est bien complexe. Jacob, il s'est encore perdu.
Sinon, dans mes autres sources d'informations, je suis tombée sur le site de la Fondation David Suzuki. Il y a vraiment beaucoup d'infos aussi là-dessus sur le fleuve. Puis là, c'est là que j'ai découvert la mission Planton Cosmique, qui est en fond une expédition d'hommes et de femmes qui cherchaient à faire découvrir la beauté du golfe Saint-Laurent, sa richesse, sa fragilité, puis tout ce qui reste à explorer encore. Puis pour ce faire, ils ont fait des capsules vidéo. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller voir ça. Il y a trois petites capsules en ligne. Les images sont tellement belles, c'est tellement intéressant. Fait qu'en tout cas, je vous invite à aller voir ça. Sinon, je suis aussi tombée sur le site Itinéraire Musée, dans le fond, qui propose des circuits de musée à visiter pour découvrir le fleuve. Puis pour vrai, là, c'est pas le choix qui manque. Là. Comme on avait fait un brainstorm, puis on avait dit, les musées, là, mais mon Dieu, il en existe des musées pour parler du fleuve.
Ah ouais, c'est comme la route bleue, genre?
Ah, je sais pas si ça s'appellerait la route bleue, mais c'était comme un site qui propose vraiment plein de musées que tu peux faire, dans le fond.
Ah, c'est cool.
Je vais vous en nommer quelques-uns, là, mais je les nommerai pas toutes, là, mais il y a le lieu historique national du chantier AC Davy, le musée naval de Québec, le musée maritime de Québec, le site historique de la Pointe-aux-Pères, le musée de la Gaspésie, le musée de la mer, le musée du Fjord, le parc maritime Saint-Laurent. Et il y en a vraiment beaucoup d'autres. Fait que bref, c'est pas ça qui manque.
Cool.
Puis, je vous ai parlé de mon petit voyage en Gaspésie l'été passé. Moi, j'ai eu la chance d'aller au musée Exploramer, qui était aussi dans cette liste-là. Puis, pour vrai, les musées, je trouve que c'est une vraiment bonne façon de s'informer parce que c'est plus intéressant qu'aller lire sur le sujet. T'sais, c'est plus dynamique, tu vois des choses, tu peux toucher à des choses. Fait que c'est vraiment cool. Fait que ça permet aussi de s'informer sur les enjeux environnementaux, mais aussi sociaux et économiques qui sont reliés au fleuve. Fait que bref, je vous encourage à aller dans les musées. Puis sinon, je suis aussi tombée sur la page Facebook « Je suis le fleuve Saint-Laurent », dans le fond, qui est une page Facebook. Je ne sais pas qui gère ça, mais bref, ils publient des photos, des vidéos, des articles, des nouvelles. Puis c'est vraiment intéressant parce que ça tient à jour de ce qui se passe par rapport au fleuve. Fait que si ça vous tente d'aller liker la page puis de vous abonner, allez-y fort. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Il y a aussi... si vous voulez plus regarder quelque chose par rapport aux baleines, sur Disney+, il y a Le secret des baleines.
Ouh.
Peut-être Daph, ça pourrait t'intéresser. Fait que si jamais vous voulez en apprendre plus sur les baleines. Puis, sinon, il y a toujours Découverte puis La semaine verte qui ont des épisodes de temps en temps sur le fleuve. Bref, c'est comme je vous dis, c'est pas l'information qui manque. Là. Je ne sais pas si vous avez d'autres... documentaires, sites, livres, podcasts?
Oui, bien, je veux juste mentionner que, mon Dieu, que ça paraît qu'on n'est pas de la même place, toi, que vous autres qui dites baleine, puis que je t'ai entendu, ça m'a stylé. Tu me regardais en parlant du documentaire, puis j'entendais juste.
Désolée.
Ben non, pas en tout. Moi, en fait, ben tu le sais, là, on a fait le même petit road trip à une semaine d'intervalle, toi, puis moi.
Oui.
J'ai aussi été au musée en Gaspésie, Exploramère, puis j'ai trouvé un livre qui s'appelle À qui appartient l'eau, qui parle de la privatisation de la ressource eau, parce que. Ben en fait, c'est super important comme ressource, puis on en a tellement, fait qu'on a l'impression qu'on n'en viendra jamais à bout, sauf que ça n'est pas vrai. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant comme livre, puis je vous le recommanderais à tous, très chaudement.
Cool. Toi, ouais. Jacob, d'autres sources d'infos?
Vous pouvez aller voir les documentaires de Mario C.
C'est vrai.
Ben,
c'est
absolument.
J'ai
oui.
pas pensé de le nommer, c'est vrai.
Sa conférence, et il est aux îles de la Madeleine aussi.
Est-ce que tu avais un autre idole, il me semble, à nous raconter?
Oui, il me semble qu'il y avait un autre, là, qui est.
Un autre boy.
Ouais, c'est un. Ouais.
Hey, vous me faites angoisser, je sais pas qui vous parlez.
Ça va peut-être te revenir, en tout cas.
Vous me le direz pendant la chanson.
C'est bon, ben, je vais continuer avec comment s'impliquer. Parce que ben, c'est le fun de faire du travail de terrain. Là. Fait qu'on peut, par exemple, s'impliquer avec une association de riverains. Puis on peut s'impliquer dans une municipalité. Est-ce que vous avez des idées, les filles, un peu, des associations de riverains, peut-être que vous connaissez?
Ben moi, l'été dernier, j'ai travaillé au lac Brome. Donc, toutes les personnes qui habitent autour du lac Brome ou qui ont un chalet ou peu importe, ben il y a l'organisation Renaissance Lac Brome avec laquelle je pense que c'est ça autour de tous les lacs, en fait. Là, tu peux payer une certaine cotisation pour être membre puis financer un peu les projets de restauration du lac où est-ce que tu habites quand tu payes à ton association de riverains. Puis tu peux participer au projet aussi. Fait que moi, je connaîtrais celle-là.
Ben c'est ça, j'allais dire. Pas mal tous les lacs ont leur association de riverains. Là, moi, j'ai travaillé dans le Haut-Saint-François, puis le lac Almure, le lac d'Argent, le lac. En tout cas, ils ont toutes leur association. Fait que c'est sûr que c'est pas le fleuve, là, mais si vous restez sur le bord d'un lac, là, vous pouvez vous impliquer dans l'association. Tantôt, Daph a parlé d'arracher des plantes envahissantes. T'sais, ils ont toujours besoin de bénévoles pour faire plein de choses, là, pour faire des travaux. Puis,
Les nettoyages de berges aussi souvent, ouais. Ont besoin de bénévoles parce qu'ils ouais. ont trouvé beaucoup de choses. On peut pas faire ça tout seul.
Oui, effectivement. Mais justement, il n'y a pas juste des associations de riverains, de citoyens. Il y a aussi des associations qui sont plus formelles, on peut dire. Fait que là, je vais embarquer un peu sur se trouver un métier. Là. Bear with me, comme on dirait en anglais. Il y a plein d'organismes dans lesquels on peut s'impliquer pour protéger notre fleuve. On peut aider à concilier les différents usages en travaillant pour un organisme de bassin versant. Qui est un, on va appeler ça un OBV pour la cause. Par exemple, un OBV rassemble les opinions des usagers de l'eau d'un territoire pour que chacun puisse en profiter. Le territoire délimité est un bassin versant, comme on en a parlé tantôt. C'est l'espace autour d'un lac ou d'une rivière. Puis ça pourrait être, par exemple, le bassin versant autour de la rivière Saguenay. On peut se joindre à un organisme pour guider les actions du gouvernement et bien, faire bien plus de choses. Par exemple, le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, le GREM.
Oh, je les aime, eux autres.
Ils font de la recherche et de l'éducation et de la conservation. On peut donc vraiment choisir qu'est-ce qu'on veut faire là-dedans. Mais c'est ça, c'est plus du travail. C'est pas nécessairement du travail bénévole là, dans ces cas-ci.
OK, je m'excuse, je reviens. Le GREM, c'est pas là qu'il y avait quelqu'un que tu...
Ah, ben oui! Robert Michaud!
Ah, bon, c'est ça!
Ah, voilà!
Ça me donnait une cloche, là.
Mais, Jacob dit, il n'y a pas un autre boy. Je veux dire, Robert Michaud n'est pas mon boy.
Non,
mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est le directeur du GREM.
Ah, c'est ça.
Oui, puis il fait beaucoup, beaucoup de recherches là, dans l'estuaire puis dans le fjord du Saguenay, justement, pour les belugas, parce que c'est une espèce emblématique. Ici, elle est en péril. Et puis... C'est ça, là, il y a beaucoup de recherches puis à savoir qu'est-ce qui impacte le plus les belugas puis comment les sauver, en fait, là, puis empêcher leur dégradation continue.
Ah,
oui,
un beau
Robert
travail.
Michaud, oui. On si
a vous,
retrouvé.
Vous pouvez travailler pour le GREM si vous voulez être le premier, prochain Robert Michaud. On peut aussi joindre un organisme pour guider les... j'allais dire, le programme d'interaction communautaire, le PIC, soutient la mise en œuvre des idées de projets communautaires visant à conserver la biodiversité du Saint-Laurent, à favoriser la durabilité de ses usages et à améliorer les écosystèmes et la qualité de l'eau. Fait que ça, c'est juste un autre organisme dans lequel vous pouvez travailler. Il y a aussi les ZIP. Vous pouvez travailler dans les municipalités. Mais je pense qu'on va passer... Oui?
Ben, j'allais dire, qu'est-ce qu'une ZIP? Un ZIP, je ne sais pas si c'est un...
Une zone...
D'intervention prioritaire, c'est ça, je pense. Mm-hmm. Fait que dans le fond, c'est des zones qui ont été définies par le gouvernement, si je me trompe pas, pour faire des actions de protection. Puis,
C'est justement dans le plan dont tu nous parlais plus tôt.
Oui, ben c'est ça. C'est de là que ça vient.
Mais ouais. Puis le premier à avoir été fondé, est-ce que vous savez c'est lequel?
Le premier ZIP?
Oui, le premier comité ZIP qui a été fondé.
Les îles de la Madeleine?
Non, Saguenay-Charlevoix.
Oh.
Ouais. En 1990, à cause du plan d'action Saint-Laurent.
OK, c'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que quand même, moi j'ai trouvé ça comme ça sur Internet, là, mais je vois que ça a son importance. Là. C'est quand même un gros un plan qui va avoir découlé beaucoup de choses. Puis...
Uh-huh. Oui. Puis il y en a un peu partout au Québec, des comités ZIP. Il y en a dans le sud de l'Estuaire, Saguenay-Charlevoix, il y a de la Jacques-Cartier, comité ZIP de la Rive-Nord. Il y en a aussi aux îles de la Madeleine, je crois. En Gaspésie, il y en a un peu partout. Là,
ben, c'est
quand tu es sur le bord du fleuve.
Oui, c'est ça, c'est par rapport au fleuve.
Oui, comité ZIP, ouais. C'est vraiment par rapport au fleuve, tandis que les OBV, il y en
partout.
A partout.
Oui, ouais. C'est ça.
Si on veut prendre soin de toute notre eau sur le territoire, fait qu'on a différentes options. Là.
Oui, parce qu'on a parlé tantôt, hein, l'eau n'a pas de fin. Là. Fait que
non, c'est ça.
L'eau d'un lac peut aussi bien se ramasser par ruissellement jusque dans le fleuve. Fait que il faut qu'elle soit propre, elle aussi.
Oui, tout à fait.
Bon, fait que ça fait le tour pour s'impliquer. Merci, Jacob. Fait qu'on s'en va à une petite pause musique, puis on revient pour l'entrevue avec Alexandra.
88.3, c'est FAC.
Ça part ici. Du ménage, plus besoin de fumer un bat parce que tout m'enrage. Parce que les bœufs sont lents pis que la terre s'impatiente. Le temps qui passe me fait peur pis le monde m'énerve. J'arrêterai de quitter mon prochain quand j'ai pu une scène pour me geler, même que je deviendrai citoyen. Je serai à l'aise en société. Je m'impliquerai pour défendre autre chose que sexe, drogue et pis rock'n'roll. Capable de choisir chaque bonne cause quand rempli d'amour je m'en rôle. Pour qu'enfin se passe quelque chose ici à la hauteur de notre talent. Qu'on fasse exploser les limites, qu'on fabrique un monde moins gênant. J'essaierai de dire aux humains que le changement existe en eux. À la place, je consomme des joints. T'essaieras sans même ces fameux. À qui je peux dire je t'aime sans être chaud comme un poil. À qui je peux dire je t'aime et puis m'en souvenir. Je me lèverai toujours à même heure, plein d'énergie, de bonne humeur. Je ferai la cuisine tout content, j'irai digérer en courant. Je rencontrerai des gens en forme, ensemble on jaserait de nos vies. Je serais pas semblant, je trouverais ça le fun. Ils trouveraient ça le fun aussi avec mes amis proactifs. On aurait toujours des projets. On serait sérieux et positif, ça nous amènerait le succès. On s'inviterait les fins de semaine, parce qu'on aurait tous des chalets. Le mien serait dans le bout de des semaines. Entre Montréal et Bishop, c'est parfait. Que je vais être riche, je vais avoir plein d'affaires. Ouais. Quand que je vais être riche, je vais avoir une résidence secondaire. Tu viens-tu voir mon chalet? Tu viens-tu voir mon chalet? Je me suis trouvé une petite place dans le bois où je peux faire tout ce que je veux. Ouais. Je me suis trouvé une place juste à moi où ce que je peux faire des feux. Viens-tu voir mon chalet? Tu viens-tu voir mon chalet? Tu viens-tu voir mon chalet? Tu viens-tu voir mon chalet? Je me suis trouvé une petite place dans le bois où je peux faire tout ce que je veux.
De retour à Les jeunes vont changer le monde. Donc, on est maintenant rendu au segment Se trouver un métier. Puis là, on reçoit en entrevue Alexandra Baer. Donc, je vais laisser Daph nous la présenter.
Ben, en fait, je pense que c'est Alexandra qui va se présenter elle-même.
Oui,
là.
Oui, OK.
Allô, Alexandra, ça va bien?
Allô, ça va bien, toi?
Oui, ça va bien, merci. Donc là, ben, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours, en fait? Ben, de où est-ce que tu es en ce moment aussi, là? Je sais que tu es à l'Observatoire international des droits de la nature.
Oui,
comment tu t'es rendue là? As-tu des études?
Oui, dans le fond, je me suis jointe à l'Observatoire pendant mon bac en droit. C'était vraiment ce début, là. On est une super jeune organisation. Nous avons été créés en 2018. Moi, je me suis jointe en 2019. Alors que j'étais en deuxième année là, de mon bac. Donc, c'était une professeure qui est maintenant la présidente de l'UBN. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus à travers mon programme. Puis je pense qu'on est plusieurs à s'être connus là, du bac en droit. Puis en ce moment, j'étudie à l'École du Barreau.
Ah, cool! Puis est-ce que tu pourrais nous parler de la mission de l'Observatoire international des droits de la nature? Puis de son importance, mettons, dans la protection du fleuve?
Mm-hmm. Donc, dans le fond, on est une organisation à but non lucratif. Puis on milite pour la reconnaissance des droits de la nature. Puis notre mission, c'est vraiment de faire évoluer les mécanismes juridiques qui sont mis en place pour protéger la nature. Et pour les faire évoluer, on croit qu'un changement de paradigme s'impose. Pour faire place à un paradigme selon lequel la nature est une entité juridique sujet de droit. Donc, c'est beaucoup de mots. Ce que ça veut dire, c'est qu'en ce moment, on est dans une posture plus anthropocentriste, ce qui veut dire que l'humain est au centre et la nature est autour de tout ça, mais c'est vraiment l'humain qui est comme au centre, qui est le plus important. Puis, on essaie d'évoluer vers une posture écocentriste, où la nature, c'est la nature qui est au centre et non l'humain, l'humain serait autour. Donc, c'est ça, la posture écocentriste reconnaît la nature une valeur, une dignité intrinsèque. Donc, les espèces et les écosystèmes devraient avoir aussi le respect à la vie, tout comme l'être humain.
Ah, je trouve ça super intéressant. C'est quoi tes tâches au quotidien, en fait? Comment tu fais pour démontrer ça un peu au travers ton OBNL?
Oui, au début, je m'impliquais plus avec les communications. Donc, maintenant, j'en parlais, je pense, un peu plus tard, mais on travaille sur l'Alliance Saint-Laurent. Moi, mon rôle, c'est les communications avec les peuples autochtones. Je suis encore impliquée au niveau des communications et je siège en même temps au conseil d'administration. Pour mes tâches au quotidien, je te dirais que ça dépend vraiment. Vu que je fais ça à titre bénévole et que je suis encore à l'école, ça va dépendre de ce que j'ai le temps de faire. Donc, il y a des journées, mettons, que je suis plus occupée avec l'école, donc je fais moins, j'ai moins de temps à accorder à l'UBN. Mais c'est sûr que tous les jours, je vais exécuter les courriels, je vais répondre aux courriels, je fais aussi des posts sur nos pages Facebook. Sinon, j'ai des rencontres souvent, notamment avec les peuples autochtones, vu que c'est le volet sur lequel moi, je me concentre. Sinon, on a aussi souvent là, des rencontres d'équipe, des rencontres de conseil d'administration. Donc, ça a l'air de pas mal ça.
Ah, ça a l'air varié, c'est plaisant. Justement, tu parlais tantôt d'entité juridique. Moi, j'ai entendu parler de l'Observatoire parce que je pense qu'il y a un projet de faire du fleuve Saint-Laurent une identité juridique. Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu plus de ce projet-là puis du processus?
Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment le projet fort sur lequel on travaille en ce moment. Le projet s'appelle l'Alliance Saint-Laurent. Donc, le mot alliance, parce qu'on est plusieurs, on vient de lieux différents et qui veulent voir le fleuve, avoir une protection, avoir des droits au même titre que nous, on a les droits en tant qu'humains. Donc, ça fait 3 ans là, déjà qu'on travaille sur un projet de loi. Et ce projet-là va être déposé à l'Assemblée nationale ce printemps, donc dans quelques mois seulement.
Wow.
Puis le projet de loi, il accorde au fleuve une personnalité juridique et 9 droits fondamentaux, dont le plus important, ça serait le droit d'ester en justice. Donc, ce qui veut dire que le fleuve pourrait aller devant les tribunaux s'il subit un préjudice et réclamer une réparation. Donc, essentiellement, ça fait en sorte que le fleuve est un sujet de droit au même titre qu'un humain ou une corporation. versus en ce moment où il est perçu comme comme un objet qu'on peut exploiter, on peut divertir dedans, il n'y a pas vraiment de conséquences. Puis là, c'est sûr que vous demandez sûrement, mais comment est-ce qu'un fleuve peut aller devant les tribunaux si c'est un fleuve?
Oui, j'allais bien. C'est ça que j'allais te demander, de qui le représente, le fleuve, devant le tribunal.
Exact. Donc, on a prévu dans le projet de loi un modèle de gouvernance où ça serait des gardiens qui agiraient au nom du fleuve et dans son meilleur intérêt devant les tribunaux. Donc, ces gardiens-là, ils proviendraient des municipalités, des nations autochtones, du gouvernement, des ONG qui œuvrent dans le milieu de l'environnement. Donc, c'est un peu ça. Puis nous, on pense que cette approche-là juridique est nécessaire pour garantir le droit à un environnement sain, puis un droit à la santé, à l'assainissement des eaux, puis ben, éventuellement pour favoriser la protection là, de toutes les espèces sur Terre là, pour maintenant et pour le futur aussi.
Puis dans le fond, c'est juste pour le fleuve que ce projet de loi-là ou ça peut inclure d'autres choses là?
Oui, le projet porte principalement sur le fleuve, mais on a une disposition là, qui permettrait justement à des municipalités ou des groupements de personnes là, d'adopter des résolutions un peu pour d'autres fleuves et rivières, là, s'ils le souhaitent. Mais essentiellement, oui, le projet porte sur le fleuve Saint-Laurent.
Puis est-ce que le fleuve, ce serait le premier plan d'eau, en fait, avec une identité juridique au Canada ou... Parce que je pense que ça s'est fait ailleurs, mais ici, je sais pas.
Oui. En fait, on a collaboré aussi là, en février dernier à la reconnaissance de la première rivière au Canada. Donc, c'est l'école de la rivière Magpie. Puis c'est ça, c'est vraiment historique parce que c'était la première au Canada. Ça s'est fait par le biais de deux résolutions miroirs. Donc, c'était pas dans la législation, mais c'était les résolutions. Puis c'est deux résolutions qui ont été adoptées par les élus de Iquanichit et la MRC de Mangani. Donc ça, c'était pour le Canada. Sinon, oui, c'est ta raison de dire que c'est pas le seul cas dans le monde. En ce moment, il y a un assez gros élan mondial là, de reconnaissance de droits de nature à des entités naturelles. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on l'OIBN s'est embarqué là-dedans parce que c'est vraiment il y a un momentum pour ça, puis c'est vraiment le temps d'agir maintenant. Là, ça se fait dans d'autres pays dans le monde. Donc, on se dit pourquoi pas, on va amener ça au Québec, puis pour le plus grand fleuve du Québec.
Puis là, j'avais posé comme question, est-ce que ça s'appliquait à autre chose? Mais là, si vous réussissez après, est-ce que ça peut s'appliquer comme à des forêts, à des montagnes, je ne sais pas, à comme d'autres aspects de la nature comme ça, ou ça serait juste pour l'eau?
Oui, c'est une vraiment bonne question. Oui, ça peut être pour n'importe quelle entité. Puis dans le fond, je peux peut-être nommer quelques cas là, qui ont été faits dans le monde, là, mais il y a eu l'Équateur qui a reconnu dans sa constitution en fait les droits de la nature. Donc là, c'était vraiment un concept très, très général. Les droits de la nature, c'était pas un fleuve en particulier, c'était pas une entité naturelle en particulier, c'était vraiment une reconnaissance générale. Et sinon, on peut reconnaître le droit fleuve ou comme en Colombie, et la reconnaissance de la rivière Atrato comme sujet de droit. Sinon, au Bangladesh, on a vu un tribunal, dans le fond, qui a déclaré que toutes les rivières du pays étaient des entités vivantes avec des droits. Donc, ça aussi, c'est une option. Et on l'a vu aussi, il y a un mouvement qui grandit avec le droit des forêts. Sinon, en fait, le cas sur lequel on s'est le plus inspiré, ce serait la Nouvelle-Zélande, qui a déclaré la personnalité juridique au fleuve Wanganui et aussi un parc national. Donc ça, c'est très significatif pour nous parce que c'est un pays qui est très semblable au nôtre, là, la Nouvelle-Zélande. Donc si ça se fait là-bas, ben pourquoi pas ici aussi. Donc ça, il y a vraiment diverses façons là, de reconnaître des droits à la nature, là, que ce soit par les tribunaux, par les constitutions, par les lois, que ce soit une reconnaissance très, très, très précise, là, par exemple, au fleuve Saint-Laurent, ou que ce soit une reconnaissance assez général. On peut voir ça de vraiment différentes façons.
On est tous un peu impressionnés.
Ah, c'est vraiment intéressant.
C'est vraiment intéressant. t'as dit que l'ODN était quand même jeune, mais est-ce qu'il y a d'autres projets avant celui-là sur lesquels tu as travaillé qui t'ont inspiré ou dans ce style-là?
Moi, j'ai été plus impliquée là, avec le projet Saint-Laurent. Sinon, avant, c'est ça, il y a eu le cas de la matière, mais moi, j'ai pas personnellement travaillé dessus, là, donc je pourrais pas vraiment parler. Mais c'est ça, du coup, on est assez jeune, c'est vraiment le projet Saint-Laurent. C'est la raison pour laquelle l'eau vient a été mise sur pied. Donc, c'est pas mal le seul projet sur lequel j'ai travaillé jusqu'à date.
OK, parfait. Est-ce que tu connais des mouvements comme collectifs pour la protection de l'eau ou comme est-ce que tu pourrais guider un petit peu les auditeurs, les auditrices pour comment on débute dans, quand on veut s'impliquer dans la protection de l'eau? Est-ce que tu as des suggestions?
Oui, bonne question. Premièrement, je vais faire un petit 5 secondes de pub, mais on cherche toujours les bénévoles à l'OIDM. Donc, si vous êtes intéressé de vous impliquer, écrivez-nous un courriel. On serait toujours intéressé d'avoir plus de gens sur notre équipe. Là. C'est sûr qu'on est tous. On est tous pas mal aux études ou on a un emploi, donc on est assez limité là, en quantité de temps. Mais sinon, il y a plein d'organismes qui œuvrent dans la protection de l'eau, que ce soit comme au Québec, on a Au Secours, on a Stratégie Saint-Laurent. Que d'aller suivre ces gens-là sur les réseaux sociaux, c'est toujours bien aussi là, pour se tenir au courant. À l'extérieur du Québec, sinon, il y a plusieurs organisations. Il y a le GARN, qui est Global Alliance for Rights of Nature. Donc, c'est vraiment, sont vraiment focus sur les droits de la nature. Il y a le Earth Law Center. C'est ça. C'est possible aussi de s'impliquer au niveau politique. Là. Par exemple, en allant voir les maires, maires, députés là, pour leur demander d'adopter une résolution qui demande d'accorder des droits à la nature. Mais sinon, juste lire les nouvelles, s'informer, c'est important là, de savoir en même temps ce qui se passe au niveau de la nature. Puis, je pense que toutes ces personnes-là sur Facebook, nous aussi, on va publier souvent les nouvelles là, qui sont reliées à ces sujets-là. Donc, c'est une bonne façon de se tenir au courant. Là.
C'est vraiment super. Est-ce que tu me permets de mettre le courriel avec lequel je t'ai contacté en description de l'émission? Comme ça, si
oui,
les gens veulent.
C'est vraiment gentil.
Ah, c'est super. Oui. Puis, je vais sûrement te réécrire moi aussi, là, parce que mon Dieu, je trouve ça intéressant.
Merci beaucoup.
Un gros merci. Oui, ça conclurait l'entrevue, les questions qu'on avait à te poser, en fait. Merci beaucoup pour ton temps. Puis, bravo pour tout le travail que tu fais. Là.
Merci.
Merci, super. Bye bye.
Bonne soirée.
Bye, bonne soirée.
Donc, nous, on s'en va à une petite pause pub et on vous revient avec le dernier segment, la petite discussion. De retour à Les Jeunes vont changer le monde. Donc, on a eu une super entrevue. C'était vraiment intéressant. Là.
Je capote. Là. Je voulais pas être têteuse en disant que j'allais réécrire après la fin. Là.
J'avais tellement de questions. Il n'y avait pas assez de temps sur l'horloge non. Pour qu'on fasse tout ça. Là.
Mais maintenant, c'est quoi tes questions? On pourra pas y répondre, mais je suis curieuse. Qu'est-ce que tu voulais savoir?
Ben, comment est-ce que ça fonctionne que le fleuve ait une identité juridique? Là? Parce que là, on a parlé, quelqu'un d'autre peut défendre l'idée, mais c'est... C'est capoté. Puis genre, en Équateur, est-ce qu'ils peuvent vraiment défendre n'importe quelle place dans l'environnement qui est détruite? Est-ce que c'est impossible d'avoir une forêt qui t'appartient parce que c'est l'environnement, c'est une entité juridique? Fait que c'est plein de questions.
C'est des bonnes questions, mais d'après moi, c'est complexe. Là. J'ai l'impression que c'est quand même... tu sais, les lois et tout, c'est pas...
Est-ce que ça peut vraiment être appliqué, tu sais, ces lois-là? Est-ce que c'est juste quelque chose qui est un peu large puis une stratégie quelconque? Mais non, c'est vraiment une loi là, dans ce cas-là.
Ils feraient pas ça pour rien, là.
C'est ça.
Non, c'est sûr.
Mais j'espère vraiment que ça va passer, en tout cas.
Ben, j'espère aussi. Hey, ça s'en vient vite, en plus, là, en automne. Ah! C'est excitant.
C'est pas au printemps?
Oui, c'est printemps.
Printemps,
oui.
Mauvaise saison.
J'ai des problèmes.
Mais là, on débattait de ça en équipe... Il nous restait des questions de quiz. Fait que nous autres, on aime bien ça, le quiz. Fait qu'on va finir notre quiz.
Je pensais Je pensais que j'allais manquer de temps. Finalement, j'ai même pas la moitié du quiz de fait.
Fait qu'on va en profiter pour faire le quiz. Vas-y, Daph, on t'écoute.
OK. Le point le plus profond de l'océan s'appelle la fosse des Mariannes. Ça représente plusieurs fois le mont Everest de creux, mettons, en dessous de l'eau.
OK.
Je vous fais guesser la profondeur. Est-ce que c'est 9236 mètres? 13 859, 11 022 ou 15 489?
Jacob. 13 000 mètres.
Non. Daphné?
15 000?
Non plus! C'est 11 022 mètres de profond.
Bon. C'est où? C'est où ça? Sais-tu?
Non, attends. Non, je sais pas.
Ah, désolé.
Dans les profondeurs de l'océan.
Oh, oui.
Ben non, mais c'est ça, mais je me demandais, tu sais, on sait-tu dans quel océan?
Dans l'océan Pacifique.
Ah, OK. Parfait.
Ouais.
Merci, okay. Google.
Oui. Très rapidement. Combien d'espèces de baleines est-ce qu'il y a dans le Saint-Laurent?
Jacob. 8.
Non, Daphné.
Combien d'espèces de baleines dans le Saint-Laurent?
Oui.
Toi, t'as dit 8. Je dirais, mais ça, on en avait déjà parlé. 12? 13?
Non. 13.
13, ouais, c'est
oui.
Ça, hein?
Ah. Il y a 13 espèces de baleines, puis il y a 3 espèces de phoques. Oui.
En plus des 13 espèces de baleines.
Je peux vous les nommer, mais comme.
Vas-y, nomme-nous les 3 phoques.
Les 3 phoques, le phoque commun, le phoque du Groenland, puis le phoque gris.
Oui, c'est ça, j'allais dire. Le seul que je connais, c'est le phoque gris.
Ils sont tellement cute. Oui. Tu vas à Tadoussac, tu t'assois ces roches, puis ils sortent leur tête, puis ils ont des gros yeux, le baby. Puis ils te regardent. Je sais pas s'ils me regardent, mais moi, je le regarde, puis je suis bien contente.
T'as l'impression qu'ils te regardent, en tout cas.
C'est ça, ça me fait plaisir de le penser. Là, j'ai une grosse question. OK. Sur le Gulf Stream. C'est le courant de surface le plus important dans l'hémisphère nord, dans l'océan Atlantique.
Vrai.
Oui, j'ai d'autres choses à dire, Jacob.
C'était pas la question encore, non, c'était pas préambule. La question.
Écoute, Jacob, suis-le. Le Gulf Stream permet de tempérer le climat parce qu'il transporte les eaux chaudes des Caraïbes vers l'Europe, puis les eaux froides du Canada, puis de l'Europe vers les pays plus chauds. OK? Fait que ça explique pourquoi l'Europe a un climat plus doux que l'Amérique du Nord, même si les deux places sont à la même latitude sur la planète. Donc, maintenant qu'on sait un peu c'est quoi le Gulf Stream puis qu'on comprend à quel point il est important, je vous demande... Vous pensez qu'il déplace combien d'eau en mètres cubes par seconde?
Par seconde?
J'ai des choix!
J'espère.
Vas-y, parce que... OK. 27 millions, 31 millions, 30 millions ou 29 millions de mètres cubes par seconde?
C'est un peu trop serré comme choix, là. Je dirais Jacob. Le 31 millions.
Toi, Daph?
J'allais dire 29. Y a-tu 29 dans le choix?
Oui, il y a 29 dans le choix, mais vous avez tous les deux pas raison.
Bon,
c'est combien? 30 millions de mètres cubes par seconde.
C'est
30 millions, difficile. Là!
C'est difficile à s'imaginer. Un mètre cube, c'est 1000 litres. Fait que c'est
beaucoup de zéro.
Ouais, c'est ça. tu disais 30 millions, fait que 30 milliards de litres, tiens. Par seconde.
Ça n'a pas de bon sens, là.
Puis ça, c'est un courant de surface, c'est bien ça?
C'est un courant de surface.
Et
il existe aussi des courants de profondeur.
OK, c'est ça, c'est de surface. Là, j'essayais d'imaginer, genre, comment on sait ce qui délimite cette quantité-là? Tu sais, il n'y a pas de mur, là, qui dit, ah, là, ça ne fait plus partie du Gulf Stream, tu sais.
Ouais, mais là, ça, c'est trop poussé pour rêve.
Non, mais
juste
je
mes intérêts.
Ouais, mais je lançais, tu sais, en l'air. Je me disais, comment ils font pour savoir que ça s'arrête là? Mais en tout cas,
je sais pas.
C'est beaucoup d'eau.
Oui, mais il est poussé par les vents aussi de surface.
Ouais, c'est
là,
vrai, c'est vrai.
Mais ça répond pas ta question, là, mais... OK. Là, il me resterait une question.
Ouh, let's go.
Est-ce que vous pensez que les coraux existent juste en eau chaude, genre la barrière de corail qu'on connaît, là?
Ben là, la façon que tu poses ta question...
Mais c'est sûr, je l'ai posé.
Tu l'as mal posé.
Ben non,
Daphné,
mais...
Non, il n'existe pas juste dans les eaux chaudes.
Ben c'est ça, mais comme comment j'aurais pu la poser pour que ce ne soit pas autant, genre...
Ben t'aurais pu faire vrai ou faux?
Ben c'était un vrai ou faux, mais vu que je la pose, c'était trop obvious que ça allait être un... Ce serait pas faux, là. Pourquoi je te demanderais ça sinon? J'aurais rien à te dire
ben,
par après. Là.
Ben, dis-nous-le par après.
Ben, écoutez, tout le monde, les coraux n'existent pas juste en eau chaude. On
est surpris.
Dans le fleuve.
Ah oui?
Ouais.
For real?
Oui. Puis ça ressemble à des petits arbres, là. Puis quand ils sont séchés, ben, ils sont plus un peu ratatinés, mais comme ça ressemble, ils s'appellent genre les brocolis de mer et les framboises de mer.
T'es sérieux? Wow. C'est ça leur nom?
Oui, c'est ça leur nom. Ils ressemblent à des petits arbres. Pis,
ben voyons.
Puis ils doivent ressembler à des petits brocolis, j'imagine.
C'est donc bien cute.
Mais attends un peu, là. Fait.
J'appelle les chouques.
Oui, parce que on dit que les coraux sont en déclin. Est-ce que c'est la même chose dans le fleuve?
Ben, je ne penserais pas. De mes recherches de surface, je dirais non. Mais c'est très possible que je recherche plus puis que la semaine prochaine, ce soit une réponse différente. Je ne sais pas.
Ben, mettons qu'on essaie de trouver une solution. Les coraux, c'est l'acidification des océans. Est-ce qu'il y a de l'acidification dans le fleuve? Peut-être un peu, mais...
Ben, j'ai le goût de te dire que oui, vu que tout se touche.
Ouais,
tu sais,
ça se rend quand même, là.
Ben, c'est ça, là.
Parce que c'est la principale menace, les coraux, l'acidification, non?
Ouais, je pense que oui.
Fait que...
Mais pour le fleuve, je pense... Tu sais, le fleuve est moyen en bonne santé, mais c'est pas la principale menace, mettons, l'acidification que je connaisse.
Ça serait quoi la principale menace du fleuve, sais-tu? Du fleuve Saint-Laurent? Hey, on te pose des bonnes questions,
vous êtes pas fin, là.
ça serait peut-être la pollution organique, là. Après Montréal, il y a beaucoup de...
OK, explique aux gens qu'est-ce qu'on veut dire.
Ouais, c'est ça. La pollution organique, c'est quand les défécations s'en vont dans l'eau. Fait que, mettons Montréal, il y a des grosses pluies comme aujourd'hui, ben il faut qu'ils déversent une partie de leurs égouts direct dans l'eau parce qu'ils n'ont pas le temps de la traiter.
Exactement. Fait qu'aujourd'hui, c'est pas une bonne journée pour aller se baigner dans le fleuve après Montréal.
Vraiment pas.
Vraiment pas.
T'as envie de tes jours non plus.
C'est non, pas... là, mais...
mais, tu sais, mettons, pour les belugas, mettons, les principales menaces qui touchent le fleuve aussi, puisque les belugas, ils habitent dans le fleuve, là. C'est la seule espèce qui reste là à l'année longue. Tu sais, dans les menaces principales qui touchent les belugas, il y a la dégradation de la qualité de son habitat, la contamination chimique. Il y a la diminution de la quantité de nourriture puis des changements climatiques.
Ouais, c'est...
Fait que j'imagine que c'est des menaces qui touchent aussi beaucoup le fleuve en général pour que les espèces dedans en soient en vivent les répercussions. Là.
Mais en d'autres mots, il y a plus de bateaux puis il y a moins de poissons. C'est ça en gros qui menace le beluga?
Ben oui, oui, il y a plus de bateaux, fait que là son habitat il est moins bon parce qu'en plus lui il communique par les sons là, fait que les sons des bateaux ça brime puis les petits s'en vont du troupeau puis ils se perdent puis ils perdent leur mère puis c'est allaité pendant comme 2 ans bébé beluga, fait que comme quand tu perds ta mère jeune ben c'est ça va pas là. Donc ben ça ferait le tour là. Vous m'avez posé une question, j'ai déblatéré. Je me suis perdue en chemin.
Merci.
Ben c'est ça que j'allais dire, je pense que ça fait le tour de l'épisode de ce soir sur les écosystèmes aquatiques là, on a parlé quand même un peu des fois de lac et tout, mais c'était principalement sur le fleuve Saint-Laurent. Fait que là, avec toutes les sources d'informations qu'on vous a données, les organismes, les emplois, les informations, dans le fond, on espère que ça vous a inspiré, les auditeurs, à changer les choses puis à protéger notre beau grand fleuve parce que il y en a besoin de gens qui se portent à son secours, comme, j'ai oublié, l'Observatoire
des droits de la nature.
Exactement, qui essaie d'en faire une identité juridique. Bref, il y a plein de moyens de s'impliquer pour protéger notre fleuve. Donc, êtes-vous satisfait de cet épisode de ce soir?
Absolument.
Oui, hein?
J'ai vraiment beaucoup appris.
Oui, on a appris plein de belles choses, c'est vraiment cool. Fait que, la semaine prochaine, à l'émission Les jeunes vont changer le monde, on va vous parler d'éducation relative à l'environnement. Fait que, on vous invite à être avec nous dès 18h. Puis, sur un mini mot de la fin qui n'a pas rapport pantoute à l'eau, au fleuve ou à rien de tout ça. Mais je voulais vous inviter sur une note plus personnelle. Dans le fond, dans le cadre des rendez-vous Inspirer l'équilibre organisés par FEPH, je donne une conférence ce samedi 19 février à 13h. Puis je vais parler d'enjeux environnementaux. Fait que ça s'adresse surtout à ceux qui voudraient s'y initier. Là. Fait que si vous écoutez notre émission puis que vous trouvez que vous en apprenez donc bien à nous écouter, ben c'est le temps de vous initier encore plus aux enjeux environnementaux. Fait que c'est ça, c'est 100% gratuit, c'est en ligne. Puis vous avez juste à vous inscrire sur le lien de la page Facebook d'Effet PH.
Gala, plugger sa conférence.
Oui, oui.
Super belle opportunité.
Voilà, c'est tout. Donc, merci à vous autres.
Merci.
Bonne soirée.
Ciao. Salut.